Sur le pont des arts, Nathalie Amar.
Bonjour à toutes et à tous. S'il est classé par son éditeur parmi les romans, Zam Zam en bouleverse joyeusement et intelligemment les codes. C'est tout autant une fable, un poème en prose, une satire ou un drame. Moins de 100 pages qui épousent plusieurs genres littéraires et qui résonnent aussi comme un hommage brillant à la littérature, aux arts et à leur capacité à nous tenir en vie. Zam Zam, c'est le nouveau roman de l'écrivain camerounais Eugène Ebaudé. Le précédent, Habiller le ciel, était de ses propres mot un catafalque de papier pour sa mère disparue, celui d'avant encore la transmission le reliait à l'héritage paternel. Cette fois, nous voici dans le royaume de Pamanga, théâtre d'une mystérieuse pandémie qui tue ceux qui sombrent dans la tristesse. Eugène Ebaudé est avec nous sur le pont des arts. Bonjour et bienvenue, Eugène Ebaudé.
Merci beaucoup pour cette introduction tonitruante,
déjà
époustouflante, épatante. J'en suis resté bouche bée.
Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation d'RFI. J'évoquais la tristesse. Elle est effectivement le sentiment le plus éloigné de l'univers de ce roman, même si la maladie menace qu'un terrible incendie se propage aux portes du royaume. Vous choisissez le rire. C'est un parti pris. C'est un manifeste pour le rire.
Vous le dites très bien, c'est même un plaidoyer pour effacer précisément ce qui nous rapproche de la tombe. Or, les morts, lorsqu'ils sont renversés, ne rient plus. Et je me laisse parfois à penser que quand ils nous observent, ils se disent « mais mon Dieu ». Pourquoi ne rit-il pas davantage pendant qu'ils sont encore vivants ? Du coup, j'ai pensé à cette fable sautille, allégorie.
Et on en parlera évidemment avec vous dans un instant. Notre rendez-vous avec les librairies du monde. On est de retour à Cotonou cette semaine chez Savoir d'Afrique. Bonjour Prudencia Nounigbo Baghidi.
Bonjour Nathalie.
Aujourd'hui, c'est un beau livre dont vous allez nous parler, un livre illustré sur une reine oubliée du Dahomey, la seule à avoir occupé le trône d'ailleurs.
Effectivement, il s'agit de la reine Tassirangbe qui a cédé au trône en 1708 et qui a créé le premier régiment d'Amazones appelé les Minons qui deviendront plus tard les Agodiers. Mais malheureusement, elle n'a régné que 3 ans, jusqu'en 1711.
Ouais, et vous nous parlerez donc de cet ouvrage qui lui est consacré et qui s'adresse à tous, hein, enfants, adultes, adolescents. Et puis, une des figures de l'art contemporain marocain, Mahi Binbin, qui expose en ce moment à Marrakech. Marjorie Bertin, vous avez eu la chance de voir cette exposition, Élévation silencieuse.
Des élévations silencieuses qui parlent beaucoup, des œuvres monumentales comme toujours, captivantes et très oniriques.
RFI, sur le pont des arts.
Eugène Ebaudé, on part avec vous pour ce royaume de Pamanga où vous situez l'action de Zam Zam. C'est un royaume de fiction, mais évidemment, on s'y amuse à y retrouver des références à notre époque. Par exemple, ce mal invisible et terrible aux origines inconnues dont vous nous dites qu'il a d'abord été attribué aux fièvres venues des forêts embabouinées, référence à peine voilée au Covid. C'est un épisode, c'est une période qui vous a marqué ?
Elle nous a tous marqués parce que nous étions confinés. Nous étions réduits à des espaces limités et tout d'un coup, nous nous apercevions que ce mot de Paul Valéry, nous savons désormais que les civilisations sont mortelles, sonnait désagréablement à nos oreilles. Venait aussi nous montrer que lorsqu'il y a une vie, on oublie quelquefois qu'elle est sous la menace. Et qu'elle est fort limitée, et que précisément lorsque nous la tenons, qu'avons-nous à faire d'elle ? C'est une question. Est-ce que nous avons à la réduire ou faire une fête.
À s'en saisir féerie. Et à en faire une fête. Alors dans Zamzam, cette pandémie provoque un mélange de mélancolie et de nostalgie que vous appelez la mélantalgie. C'est une sorte de pessimisme chronique, hein. C'est comme ça qu'on le définirait. Justement, ne pas connaître la valeur de la vie et ne pas savoir en profiter.
C'est du pessimisme chronique. Aigu.
une incapacité à se réjouir des bons moments de la vie.
Oui, c'est ça. Et puis, nous avons une mémoire gommeuse qui oublie, lorsque les temps sont un peu durs, de rappeler qu'il y a eu d'autres moments extraordinairement glorieux. C'est pour cela que la princesse Onitsa, justement, elle représente ce passage. Elle a quitté un royaume parce qu'elle congédie un prétendant qu'elle estime un peu trop vieux. Et elle en choisit un autre, justement. Et j'ai écouté tout à l'heure plus l'ancienne parler de l'Amazone.
Oui, on va l'entendre hein, tout à l'heure, on va la retrouver.
Il se trouve que c'est aussi une façon, si vous voulez, de célébrer... Le genre féminin.
Le genre féminin, la princesse Onitsa, donc qui aime les arts et idolâtre les lettres, ce sont vos mots. Elle va être chargée par le sultan de ce royaume de Pamanga de produire des événements retentissants. C'est assez drôle, c'est une sorte de ministre de la culture et du divertissement, Eugène Ebaudet, cette princesse.
C'est d'abord une réfugiée, si je puis dire, puisqu'elle n'est pas de ce royaume. Et le sultan qui l'accueille, d'ailleurs contre l'avis de ses notables, lui donne cette possibilité effectivement de pouvoir organiser des événements sur une base qui l'étonne d'abord, puisque c'est des questions spirituelles, la littérature, tout cela, l'intrigue. Et il va donc lui donner l'occasion de montrer ce qu'elle sait faire, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut entreprendre pour que la saveur monte jusqu'aux têtes, mais d'abord aux narines.
Aujourd'hui, on dirait qu'elle travaille dans l'événementiel. C'est à peu près l'équivalent. Parce qu'il faut qu'elle marque les esprits quand même.
Bien sûr.
Il faut qu'elle choque les consciences.
Il y a l'événementiel, mais vous avez dit le ministère. Vous avez dit quelque chose, le ministère de la culture, au fond, c'est le ministère qui est celui de l'imagination. Mm-hmm. Pas seulement de l'imagination, qui est aussi celui de la convivialité. Pas seulement de la convivialité, qui est aussi celui de la capacité à recevoir comme un don exceptionnel les œuvres de l'esprit. Et ces œuvres de l'esprit, on peut aussi les trouver dans des choses considérées comme banales, comme les aliments, la nourriture, la sauce-feuille, et que sais-je encore.
Exactement. La feuille de route de la princesse, vous sèmerez des idées et vous les moissonnerez, que ceci soit notre pacte et notre manifeste. Elle est là, donc, vous nous l'avez dit, pour introduire de la poésie et de l'imagination. Sacrée mission. Hein. Ce sultan Bokito lui fait une confiance aveugle. Et vous l'avez évoqué... parfois même contre son propre entourage. Il lui accorde toute sa confiance, il mise tout sur elle. Et il y a donc cette idée pour vous que les femmes sont prescriptrices, qu'elles savent peut-être ce qui peut, mieux que les hommes, ce qui peut sauver les humains de la bêtise et de la guerre notamment.
Eh bien, comme mes frères humains, les hommes me pardonnent. Là, j'avoue que...
C'est un roman féministe.
Elles savent mieux que nous. Et donc, je suis moi-même à l'école des fans et des femmes, puisque mon épouse est éditrice et je vois le travail admirable qu'elle fait et que je salue ici grâce à l'antenne que vous me donnez et toutes celles qui œuvrent pour précisément faire en sorte que notre monde soit plus ouvragé par l'esprit, par la beauté. Et je pense d'ailleurs à une journaliste, la femme, l'épouse d'Émile de Girardin, Delphine de son prénom, je pense, qui était celle qui a inventé la chronique spirituelle. Et puis, je pense à Scheherazade.
Bien sûr, mais oui.
Puisque vous avez évoqué la fable.
Ouais. En tout cas, de l'imagination, elle en a, cette princesse, à revendre. Elle organise un concours international de la sauce-feuille, une nuit des joutes et des taloches, une foire panafricaine des têtes récalcitrantes ou un concours continental des coriaces. Le continent en question, c'est évidemment l'Afrique, Eugène Ebaudet.
Oui, c'est...
Hein, il y a quand même une référence assez explicite à ce continent-là.
C'est notre Afrique, notre berceau de l'humanité. Et qui quelquefois est un peu abonné aux absents.
Ouais.
Et ici, il est présent, et je pense très bien représenté, par non seulement la junte féminine, mais il y a aussi des mâles. Et on voit le sultan Bokito qui l'accompagne et qui, lorsque arrive le danger, est celui qui refuse de quitter son royaume. Il pense à une idée qui dit que lorsque il y a un grand orage et que l'on voit le chef du village dans les flots, c'est que le village a disparu. Et lui, il ne veut pas être dans les flots.
Je vais vous demander, Eugène et Baudet, juste pour le plaisir, de nous lire un petit extrait de Zamzam au micro RFI en direct du studio 41, donc, où vous parlez de ce continent-là. On vous écoute.
Le continent comptait près de 2 milliards d'habitants, les nourrissant et les éduquant à grand-peine, les graissant surtout de pessimisme et d'aigreur. Le comité de sélection des Corias fut débordé. D'avoir oublié que près de 3000 ethnies vivaient dans un lieu où on parlait presque autant de langues, où cohabitaient deux vastes déserts. Le plus grand, le Sahara au nord, et le Kalahari au sud, avaient façonné divers et prodigieux arts de vivre. Ces peuples ensablés, enforestrés ou piroguants s'ignoraient. Ils adoraient écouter le vent plutôt que les êtres. Le nord tapait sur le sud et le sud vomissait le nord. Tous maugréants et tous enragés les uns contre les autres, ayant cultivé et ingéré comme un automatisme le cruel réflexe de la haine du voisin. Mais là, ils avaient l'occasion de montrer un autre visage durant une compétition impartiale. En un lieu où le projet de désigner le meilleur résistant faillit tourner à l'éloge du plus cabochard, voire à l'apologie du satrape.
Et dans cet extrait de Zamzam, Eugène et Baudet, il y a à la fois une vision très sombre, très pessimiste du continent africain, et puis l'idée aussi qu'il y a quelque chose, qu'il y a une chance à saisir peut-être, c'est ça ?
C'est ça. Et la chance qui est à saisir, voyez-vous, je viens de l'Académie du Royaume du Maroc, où nous expérimentons justement cette autre option. Par la conversation autour des arts, par le décloisonnement des littératures et des héritages de la colonisation où les langues sont balkanisées, elles sont enfermées dans leurs héritages singuliers. Et ici, c'est la diversité que nous convoquons. Nous favorisons aussi la valorisation précisément de ces littératures et surtout leur circulation que votre antenne nous permet de prolonger. Ouais. Et à l'Académie du Royaume du Maroc, voyez-vous, l'idée que l'Afrique doit retrouver ses richesses, ses atouts, et pas seulement pour elle-même, précisément pour qu'elle les repartisse à elle-même, c'est évident, puisque la plupart des richesses culturelles africaines, je ne parle pas des objets à restituer, mais des livres, par exemple, sont produits dans de belles maisons européennes, comme Gallimard, mais que tous ces héritages soient repris, réingérés, recultiver et remis en circulation pour le vaste monde. Voilà la perspective.
Voilà, la perspective et l'envie de sortir de cette vision sombre. Vous avez évoqué le Maroc qui est votre patrie d'adoption.
Exact.
Et votre Cameroun natal, il est présent aussi dans cette évocation que vous faites de l'Afrique dans Zamzam ?
Il est d'autant plus présent que mon village, le village natal de mes parents, les Ébaudés, est nommé. Il est nommé et l'écrivain, le narrateur en tout cas, qui raconte cette histoire, il passe quelques moments un peu de retraite pour se ressourcer. Et voilà que l'aventure, le picaresque que vous avez convoqué, le mène au royaume de Bokito où il va rencontrer Onisha. Le Cameroun y est.
I'm on my way. Young soul had a big dream stored away in the basement. Melodies and rap schemes day and night in his Walkman. Losing track of time, making beats in 05. Won a 6 in park on TV. He knew by heart all the guests. He was in love with free. Wanted to be Kanye West. I take you back to the beginning, when no one believed, no one believed. Well,
yeah, yeah, yeah.
Gotta give the boy a chance.
Yeah, yeah, yeah.
To fly and become a man.
I'm on my way, I'm on my way.
I'm on my way.
I'm on my way, I'm on my way.
Pops made a tune just like him. Heritage to embrace. 30 years in silence. Life took a turn for the best. Guided by the rhythm, they both had a second chance. From dorm room to the main stage, never felt so alive. Flashing lights, he lost sight that flowers bloom in due time.
I take you back to the beginning, when no one believed, no one believed.
Well,
yeah, yeah, yeah.
Gotta give the boy a chance.
Yeah.
To fly and become a man.
I'm on my way, I'm on my way.
I'm on my way.
I'm on my way, I'm on my way.
In the symphony of life, no one but us will make it right.
Yeah, yeah, yeah.
Gotta give the boy a chance.
Yeah, yeah, yeah.
To fly and become a man.
James Bekaes, le fils du grand Manu Dibango, qui a composé pour des stars américaines, Snoop Dogg, pour ne citer que lui. On vient de l'entendre dans son dernier titre, On My Way. Eugène Ebaudet, je crois que vous avez apprécié et que vous aimez aussi savoir que la postérité de Manu Dibango
est assurée.
Le travail est
formidable.
Assuré.
Formidable. Et en l'écoutant, je dis bravo. Et c'est cette Afrique qui nous émerveille, qui nous passionne.
Alors, ce qui nous émerveille.
Et qui raconte aussi, pardonnez-moi, des héritages. Et en écoutant l'évocation que vous faites cette musique, elle me renvoyait à celle de Francis Bébé.
Mmh. Oui.
Et tous les deux ont chanté « Idi badibou si bois mais
ah, »
et
oui. «
C'est oué mini billé » et « C'est oué mini billé » « Oh ma dangwa penge ya, oh dangwa londo kamoto setona »
C'est
ça,
magnifique.
C'est Manu
Eugène
et Francis Bébé.
Eugène Ebaudet, chanteur en plus d'avoir été footballeur, journaliste, écrivain. Quel métier n'avez-vous pas fait, Eugène Ebaudet?
Celui de menteur.
Alors là,
est-ce qu'on vous croit?
Ne serait-ce pas un très gros mensonge, Eugène Ebaudet?
Si vous aviez l'image du rire de Eugène Ebaudet, je pense que vous auriez la réponse. Mais voilà, on est en radio. En tout
vous
cas,
êtes cruel.
En tout cas, on est ici pour évoquer Zamzam, votre dernier roman. Zamzam, c'est donc cet étrange héros au crâne de pierre qui va être désigné vainqueur des intransigeants. Son crâne fait voler en éclats la massue royale. J'étais curieuse de savoir qui vous a inspiré ce personnage au crâne de pierre, Eugène Ebaudet. Ce sont des chefs de guerre, des souverains, des dictateurs ou juste des gens têtus?
Eh bien, qu'on ne voit pas de référence à quiconque, puisque vous me posez cette question. Mais j'ai souvent pensé que le conflit et le régime de conflictualité dans lequel baigne l'humanité peut être remplacé par un autre, celui de la générosité, celui de la teranga, comme disent les Sénégalais, et celui de
l'accueil.
Sanankuya.
Bienveillance.
Voilà,
ouais.
Sanankuya, comme disent les Mandingues, Maliens, Guinéens et Marocains. Donc, il
ne faut pas chercher de référence, mais il faut plutôt aller chercher des exemples à l'opposé de ce Zamzam.
Oui, donc, je voulais dire que sous le régime de la conflictualité, quand vient le moment, de dépasser le conflit, eh bien, il y en a qui regimbent, qui renâclent, qui sont des récalcitrants, mais du mauvais côté de la ligne d'humanité et de la ligne de dépassement de ce qui peut irriter. Voilà, c'est tous ces personnages qui s'enferment dans une position extrême et dans une position jusqu'au boutiste qui m'a inspiré
Zamzam.
Cette allégorie.
C'est un fou, mais c'est un fou qui continue de croire, hein, qui se laisse pas démonter. Je le disais tout à l'heure, c'est un roman, Zamzam, qui tient à la fois de la fable, du picaresque, de l'épopée. Comme dans l'Iliade et l'Odyssée, au début de chaque section du roman, vous nous faites une sorte de résumé de l'action à venir, parce que des repères, des clés, parce qu'il faut dire que c'est pas toujours facile de vous suivre, Eugène et Baudet, dans cette action. On a l'impression que vous écrivez, comme on réfléchit parfois, hein, en passant d'un sujet à l'autre, surtout dans une espèce d'urgence, d'intranquillité. Je me trompe ?
Il est urgent de dépasser le conflit, il est urgent de dépasser la tristesse, il est urgent d'être comme vous, souriante. Et du coup, la vitesse plutôt d'écriture, c'est le procédé, aller vite. Et donc, résumer en tête de chapitre les événements que l'on va vivre. Je ne dis pas au lecteur de se contenter de ces...
Absolument pas, mais c'est un repère auquel on revient quand parfois on perd
le fil.
C'est l'objectif.
Oui,
c'est l'objectif.
C'est l'objectif, comme vous dites, mais c'est aussi un clin d'œil au siècle, au 19e siècle que j'aime beaucoup. Enfin, 18e, 19e, le modèle d'écriture avec des éléments, des indicateurs posés par avance, et au lecteur de pouvoir les suivre et de vérifier d'ailleurs s'il y a une cohérence, et elle est rigoureuse. Hein.
Je peux vous dire. Absolument,
Passé du temps.
Vous étiez perdu.
Non, pas du tout. C'est comme le petit poussé, il doit placer des petits cailloux, on ne sait jamais où va vous mener le destin et où les chemins broussailleux, éclairés, les autoroutes, etc., peuvent vous conduire. Il faut des traces, des marqueurs. Et elles sont donc positionnées à travers ces cartouches, comme on disait techniquement. Et puis, j'avais envie de montrer aussi qu'il y a cette composition technique du récit. Vous avez noté que les strophes sont en 10-1, et c'était aussi une contrainte.
Absolument,
Et dans la contrainte, on trouve un élément qui m'est cher, c'est la jubilation.
Quand on arrive à surmonter cette contrainte et quand on arrive à faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. Vous évoquez le 19e siècle, mais on ne compte pas dans Zamzam les références littéraires, à commencer par Pouchkine, dont vous reproduisez en ouverture l'autoportrait. Mais ce n'est que le début, hein, puisque Onisha, la fameuse princesse, et le narrateur, quand ils se retrouvent, rivalisent de références. Hein, Amadou Ampateba et le destin de Vongrain, Amos Toutouola, Mongo Betty, Emmanuel Dongala, la Boutandi, on ne peut tous les citer, c'est une sorte de joutes
bibliothèque
sans fin et de bibliothèques aussi.
Il y a aussi l'univers qu'on représente souvent comme étant la littérature maghrébine ou la littérature d'Afrique du Nord. Non, toutes les Afriques sont présentes.
Ouais, et hommage donc à la littérature africaine. Une façon de diriger aussi vos lecteurs vers ces grands auteurs-là ou simplement des clins d'œil ?
Exactement, mon général, c'est précisément pour leur tenir la main et leur dire revisiter Amos Toutouola, revisiter la brosse des fantômes. D'ailleurs, vous y trouverez un peu une manière qui est la mienne de réinterpréter, de revisiter la bibliothèque. Parce que dans Fantôme dans la brousse, Toutouola estime que son malafoutier, celui qui lui apportait le vin de palme puisqu'il était ivre depuis l'âge de 10 ans, eh ben est mort et il faut aller le retrouver, le reprendre entre les morts.
Ouais.
Et il pénètre dans la forêt des mystères, et trouvant une tête ici, un bras ailleurs qu'il essaye de rassembler pour recomposer son malafoutier. Vous vous rendez compte ? Il le fait d'ailleurs un peu comme le faisait aussi Gogol. À qui Pouchkine, dont vous venez de faire la référence, Pouchkine confia à Gogol en 1835, 2 ans avant sa mort, en duel, voyez-vous, il lui confia, tenez, Gogol, occupez-vous de cette histoire, que j'ai lu dans un entrefilet d'un journal où un monsieur va racheter les morts.
Ah oui.
C'était, vous savez qu'en Russie, à cette époque, au 19e siècle...
Mais c'est ça qui a donné les âmes mortes, c'est ce que vous nous
racontez. Les âmes mortes,
oui,
voilà.
C'est, les serres,
c'est ce qui donne les serres, justement. Il y avait un recensement tous les 5 ans. Et tous les 5 ans, le recenseur passait et quand il avait fait sa comptabilité, eh bien... Les employés du propriétaire servaient un peu de mesure pour l'impôt foncier. Et du coup, quand ces personnes mouraient, eh bien, que faisait-elle, que faisait le propriétaire? Il continuait à payer les impôts jusqu'au prochain recensement. D'où l'idée qui vient à Don Kapouchkine, qu'il y a un monsieur qui va racheter les morts pour créer dans des propriétés qui n'avaient absolument pas de valeur, mais puisqu'il a acheté des morts, eh bien, il les repeuple et il peut faire des transactions nouvelles à travers cette astuce. Et c'est Pouchkine qui donne l'idée à Gogol, et Gogol écrit un magnifique livre, Les âmes mortes.
Les âmes mortes.
Dans Pouchkine,
je voulais le
célébrer, et célébrer aussi Pouchkine l'Africain, puisque nous sortons du 225e anniversaire de la naissance de Pouchkine, dont l'aïeul noir, comme l'a révélé Dieudonné Nyamankou, un historien béninois. L'aïeul noir de Pouchkine, Abraham Hannibal, venait du Cameroun. Le Cameroun qui est l'invité d'honneur du Salon du Livre Africain de Paris.
Absolument, absolument. Et on sent une certaine fierté dans votre voix, Eugène
Ebaudé.
Absolument. On parlait d'Amos Tutuola, donc auteur nigérian, édité en 1953 dans une traduction de Raymond Queneau, et puis réédité par Les Continents Noirs, qui vous édite également chez Gallimard, Eugène Ebaudé. Il y a d'ailleurs un clin d'œil à votre éditeur, hein, Gian Natale.
C'était un clin d'œil, c'est vrai qu'il est
Jean
extraordinaire, Jean-Noël.
Jean-Noël Skiffen.
Il a créé avec Antoine Gallimard une collection il y a 25 ans et nous fêterons d'ailleurs, nous sommes entrés dans un air de fête.
C'est l'année des 25 ans,
l'année
absolument.
Des 25 ans.
On l'avait inauguré dans cette émission le 6 janvier dernier.
Je vous ai écouté religieusement et en dansant. Et puis nous allons prolonger cette danse à Rabat, à l'Académie du Royaume du Maroc, où l'Académie, avec son secrétaire perpétuel, attend les auteurs, tous les auteurs de Gallimard qui participent depuis longtemps à la fête des mots, à l'écriture majestueuse dans une collection, eh bien, que je recommande à tous les lecteurs d'aller visiter, de se saisir des livres qui y sont.
Alors, en tout cas, auprès de Gian Natale, ce double de votre éditeur, vous vous excusez d'un long silence. En réalité, vous êtes plutôt un auteur prolixe, Eugène Ebaudé, non ? Pas un roman par an, mais un tous les deux, trois ans, ça va. Vous n'êtes pas,
Nathalie,
de ceux qui font attendre leurs éditeurs
Il est impatient. Ça fait 2 ans que je n'ai pas publié. C'est une éternité.
C'est une éternité.
Pour Jean-Noël Skiffano.
Mais donc, ça veut dire que vous avez déjà le prochain en tête, là ? Non ?
Oui, absolument. Si, absolument. J'ai même quelques pages, mais je ne les délivrerai pas ici, puisque...
J'imagine bien. On ne va pas avoir cette primeur, mais en tout cas, vous êtes un auteur discipliné. Hein. Il y a un rythme à tenir.
Très discipliné dans l'indolence.
Alors, qu'est-ce que ça donne ? La discipline dans l'indolence, qu'est-ce que ça peut donner ? J'essaie de réfléchir.
J'aimerais bien être aussi indolente, en tout cas, parce que 2 livres.
You.
et une pionnière du rap marocain Widad Mjama avec le musicien tunisien Khalil Epi. C'était le duo Aïta Mon Amour dans la playlist RFI avec ce titre Améla. On va retourner au Maroc dans un tout petit instant. Eugène Ebaudé, mais je voudrais que vous nous disiez un mot de votre travail pour la littérature enfantine avec ce titre qui vient de sortir aux éditions Africa Mood dans la collection Dragonnier, le petit zèbre qui n'aimait pas ses zébrures.
Alors l'idée vient de l'éditrice qui souhaitait que je puisse m'adresser aussi
aux enfants,
au jeune public. Parce que, au fond, pourquoi écrivons-nous, pourquoi mobilisons-nous tant d'efforts pour rendre le monde meilleur que nous l'avons trouvé, ou en tout cas, de moins l'abîmer que nos tendances d'adultes oublieux que nous avons été enfants et oublieux qui sont l'avenir, eh bien que tout ceci reste comme un objectif. Donc, écrire pour les enfants, c'était à la fois de rassembler ce qui peut faire sens et ce qui peut les aider à dépasser les petits tourments qu'ils rencontrent. Par exemple, identitaires. Qui sont-ils ? Ils estiment parfois qu'ils ont... la nature a été ingrate parce que les autres sont meilleurs que soi. Mmh. Et du coup, en pensant à cette difficulté qui vient surtout dans l'adolescence, où on a des troubles de comportement, on se sent
mal. On se demande qui on est, pourquoi on est rejeté éventuellement, voilà. Etc., etc.
Donc l'idée est venue de pouvoir leur parler à travers un petit zèbre.
Voilà. Qui n'aime pas ses zébrures, qui ne s'accepte pas. Voilà.
Il ne les accepte pas.
Mais qui finit par s'accepter, rassurez-nous.
C'est l'idée du livre. Non seulement par s'accepter, mais par retourner voir sa maman qu'il avait quittée en estimant qu'elle n'était plus bonne à rien.
Oh. Allez, on vous propose maintenant une élévation silencieuse et pour ça, il faut se rendre au Maroc. Et Marrakech, précisément, où vous avez découvert Marjorie Bertin, la nouvelle exposition de l'écrivain et plasticien Mahi Binbin à la galerie 208 du Mandarin Oriental Studio.
Absolument, c'est sur les hauteurs de Marrakech. On retourne dans votre patrie d'adoption, Eugène.
Oui.
Dans une immense salle que sont abritées les nouvelles créations de Mahi Binbin, une des grandes figures de l'art contemporain marocain. Peinture, sculpture, bas-reliefs monumentaux, une explosion de rouge, d'orange, d'ocre, de gris et de bleu. Des personnages, souvent deux d'ailleurs, grandeur nature, serrés par des cordes, des cages, des barreaux, des corps meurtris. Ce sont les signatures de Mahi Binbin.
Et qu'est-ce que cette obsession traduit, Marjorie ?
Une histoire personnelle. Lorsqu'il avait 10 ans, l'un de ses frères, militaire sur le point de devenir officier, s'est retrouvé accusé d'avoir participé au coup d'état de Sererat contre le roi Hassan II. Nous étions en 1971. Son frère était innocent, mais il va passer 18 ans dans une prison secrète, sans soins ni visites. Un traumatisme pour Mahi Binbin.
Donc dans mon œuvre, il y a beaucoup de corps ligotés, beaucoup de corps coupés, endoloris. Ordinairement, il y a toujours l'enfermement dans lequel j'ai vécu pendant très très longtemps, puisque j'avais mon frère qui était dans ce bagne mouroir pendant 18 ans dans le noir. Mon frère était venu dans mon atelier qui est sorti de Tazmamart, qui est sorti vivant. Sur 29, il y avait 4 survivants. Et il m'a trouvé encore en train de ligoter. Il m'a dit, moi je suis sorti de Tazmamart, mais pas toi, ça suffit.
Incroyable. Une obsession qu'on retrouve sur une peinture gigantesque d'un bleu lumineux marin qui évoque les chèches des Touaregs et qui nous rappelle que nous sommes, quand on est au Maroc, aussi en Afrique.
Il y a un masque africain, on le voit. Et il y a des clés. Bon, et c'est toujours l'histoire de Tazmamart, l'histoire de cet enfermement qui me hante depuis toujours, depuis 40 ans, 50 ans. On trouve des visages encastrés dans un mur quadrillé. Mais quand on voit le tout, c'est très beau, ce bleu, il est exceptionnel. Ici, on l'appelle le bleu Majorelle. Vous l'appelez le bleu Klein. Mais ici, Jacques Majorelle a un musée bleu. Et ce bleu, c'est un pigment qu'on trouve dans le coin. Et là, on voit les visages sculpté qui sort de une petite ouverture là.
Il y a deux mains.
Il y a deux mains sur le visage qui se protègent.
Alors on chemine dans l'exposition, il y a énormément de pièces. L'une des plus spectaculaires, ce sont deux corps nus et androgynes qui se tiennent par les mains et les jambes en équilibre sur une roue gigantesque peinte en bleu ciel sur un fond d'un bleu plus profond.
C'est un travail récent, c'est des bas-reliefs sur des clous. Les personnages sont découpés dans du bois, puis je peins sur le bois et je fais des installations. Là, dans ce tableau, il y a 30 000 clous qui sortent. On ne s'en rend pas compte. Sur un tableau de 2,20 m par 1,70 m, il y a 30 000 clous. Il y a tous les enfants de Jamel Fna qui font des clous, ils ne savent pas pourquoi ils les font en bois. Parce qu'au départ, j'avais fait des clous en fer. On n'a pas pu remuer la pièce. Donc je fais travailler, je ne sais pas, 40 gamins. Ils travaillent le bois, ils me vendent un dirham de clous. Donc le tableau, il vaut déjà la fabrication en clous revient cher.
Ouais, c'est plutôt original, hein, Marjorie, des clous en bois. Avec quels autres matériaux travaille-t-il ?
De la peinture, des pigments, du goudron, de la cire d'abeille aussi. Cette technique qui date de la Renaissance italienne, en fait, elle confère une patine, une luisance très douce, très particulière aux toiles. Et puis, il y a aussi du bronze, du plâtre. Ce sont toutes des œuvres qui parlent. On chemine parmi des statues de bronze, des personnages dos à dos lisent un livre ou fesse contre fesse, la tête en bas, sont entraînés dans une roue gigantesque, de cordes rouges, couleurs et peintures dont qui accrochent le regard, la pudeur de l'artiste qui est maquillée comme par son rire de manière très vive en fait.
Et de très grande aussi, me disiez-vous. Hein.
Mais oui, ça fait aussi partie de la signature de Marie Binbin. C'est grand, c'est à l'image de cette œuvre qui part du sol jusqu'au plafond comme une BD géante sur tout un mur du Mandarin Oriental Studio. Alors là, on y scrute des personnages gris dans des cylindres noirs, serrés les uns contre les autres, séparés par des barreaux ou qui sont en train de se consoler, sans qu'on sache jamais en fait si les deux existent ou si le second personnage est une projection imaginaire du premier.
Ça, c'est un mur que j'adore. C'est un mur de 32 dessins, 80 par 80. Donc ça fait 8 mètres ou 9 mètres de largeur sur 4 mètres de hauteur. C'est comme le concentré de mon œuvre. Parce qu'il y a toutes les trouvailles. Chaque dessin raconte une histoire. C'est fait avec du goudron, de l'huile et du papier de soie.
Ces histoires, qu'est-ce qu'elles racontent ?
Chaque tableau, je me raconte une histoire. Par exemple, celui-là. Il y a deux têtes qui s'entrelacent. Il y en a une qui sort du livre. C'est comme si l'écrivain parle à son lecteur. Je me fabrique mes films tout seul. Et d'ailleurs, je ne donne pas de titre à aucune œuvre pour ne pas conditionner celui qui regarde. Je veux qu'il voit avec ses yeux et pas avec les miens. Pretty girl, put down your pen.
Come over here, I'll show you how it's done. Donc Marjorie, vous avez vu avec vos yeux, qu'est-ce que vous avez perçu ?
Bah, beaucoup de choses, la prison bien sûr, mais aussi la mémoire, l'oubli, la fraternité, les pouvoirs sublimes de l'imagination, Eugène. Ce sont des œuvres ouvertes et au-delà de leur esthétique, c'est peut-être ce qui les rend particulières, inoubliables. Across the room, across the street, I'm in the moment, can't you see? I'm a party girl, do a twirl, see my eyes, throw a glance, can't you see I'm a natural.
Voilà donc pour ces élévations silencieuses, exposition à découvrir au Mandarin Oriental à Marrakech jusqu'au 29 mars prochain. Merci Marjorie.
Plaisir.
Eugène Ebaudet, vous connaissiez Marie Binbin, vous connaissez ses œuvres?
Bien sûr, qui ne connaît pas Marie, qui n'est pas égayé par son rire communicatif, qui s'intègre très bien dans Zamzam du reste, puisque
vous
c'est
l'invitez,
le rire contre
vous
la
l'invitez
mélancolie.
Dans votre prochain roman.
Non seulement je l'invite dans le prochain roman, mais il est l'invité permanent de l'Académie du Royaume du Maroc.
Et vous, on vous a déjà vu pinceau, crayon en main donner dans les arts plastiques ou pas du tout? Ou c'est pas votre rayon?
J'avoue que convoquant Mayi Binbin et osant dans la phrase qui suit parler de moi en peintre, ce serait vraiment rêver.
Trop ambitieux.
Rêver les yeux ouverts. Mais cela étant dit, N'ayant absolument pas, je n'ai pas horreur du ridicule. Ceux de mes lecteurs savent que j'aime bien laisser quelques petites images quand je dédicace. Et en tout cas, ils le verront au Salon du Livre Africain
en fin de semaine, à Paris. On vous entraîne dans l'immédiat à Cotonou, Jeanne et Baudet. C'est notre rendez-vous avec les librairies du monde. Et on fait escale aujourd'hui chez Savoir d'Afrique avec Prudentienne Unibo Bagbidi, que vous connaissez, Eugène et Baudet. Je fais pas les présentations.
Elle est extraordinaire.
Prudentienne, vous l'entendez, hein? Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Votre coup de cœur, Prudentienne, aujourd'hui, ce n'est pas un roman, ce n'est pas de la poésie, c'est un beau livre illustré, un livre sur Tassi Ngbe.
Oui. Oui, Nathalie, il s'agit d'un beau livre illustré en bande dessinée sur la reine Tassi Ngbe du royaume de Dahomey. C'est une reine qui a succédé au roi Akaba, son frère jumeau, mort au front. Et Tassi Ngbe, c'est une femme d'engagement, de rigueur, de par ses méthodes, ses réformes et ses dédales. Et Ngbe a su féminiser les professions traditionnellement réservées aux hommes, formant le corps des femmes amazones qui luttent farouchement contre l'ennemi pour sauver le royaume. Et toutes ces réformes gênaient les hommes, principalement son propre frère, qui a monté un vaste complot de déstabilisation du pouvoir en prenant en otage son fils unique, le prince héritier que la reine envisageait d'installer à sa possession.
Oui. On a un peu de mal à vous entendre, malheureusement, Prudentienne. On va peut-être essayer de rétablir une meilleure liaison. Toute l'histoire donc de cet album, c'est de savoir comment la reine a pu contrer ces comploteurs teigneux, dangereux. Donc ça nous est raconté sur une cinquantaine de pages de cette bande dessinée. La figure de Tassi Ngbe, Prudentienne, et les Amazones, d'ailleurs, sont remises à l'honneur en ce moment au Bénin depuis quelques temps d'ailleurs, il y a cette statue gigantesque de la reine des Amazones
à côté du palais présidentiel.
Absolument, à Cotonou. Ce livre nous en apprend plus, Prudentienne, sur l'histoire de Tassi Ngbe.
Oui, absolument. La reconstitution de l'histoire de cette reine qui a marqué par ses œuvres la dynastie royale du Dahomey, mais confondue pendant des siècles au règne de son frère jumeau, dont elle n'assumait que le prolongement, disaient les traditionnels. Mais son pouvoir a été pendant longtemps invisibilisé. Mais aujourd'hui, des recherches et des témoignages s'emploient à l'arracher de l'anonymat et à la faire connaître plus. Donc, lorsqu'on retrace l'histoire des Amazones, on constate que Tassi Ngbe est l'une des figures les plus emblématiques du féminisme historique en Afrique. Donc, le retour des trésors royaux Bénin aussi a révélé la place importante de cette héroïne dans le parcours et dont le parcours mérite toute lumière.
Oui, mérite d'être remis en lumière à sa juste valeur. Prudentienne, à qui doit-on ce livre? Qui a écrit le scénario? Qui l'a illustré?
Oui, cette bande dessinée a été écrite par Sonia Fuenoudé. C'est une femme, évidemment. Elle est l'ancienne chargée académique et culturelle près de l'ambassade d'Haïti au Bénin, mais présentement directrice du Centre africain des créateurs Ken Bougoul, basé à Porto-Novo. C'est une autrice qui s'efforce à construire une bibliographie en bande dessinée des personnages historiques face à une jeunesse béninoise et africaine en mal de représentation. Elle a aussi écrit une bande dessinée sur le roi Béranzin,
et oui,
qui est aussi une figure historique du royaume de Dahomey.
Et l'illustrateur?
L'illustrateur, c'est Ezekias Badamasi. C'est un jeune illustrateur et artiste de BD togolais. C'est un fan incontestable de BD depuis sa plus tendre enfance.
Ouais, il n'a pas 30 ans encore. Il signe sous le pseudo de Kiel, c'est ça?
Exactement.
Ouais.
Exactement.
Ouais. Un mot de l'éditeur?
Ça a été édité chez Lara Édition, qui est l'une des grandes maisons béninoises. C'est 100% béninoise. C'est le promoteur béninois. Et c'est l'une des plus grandes maisons d'édition de la sous-région en manuel scolaire, mais elle a aussi un fonds large en littérature, en ouvrage de jeunesse et en essai. Et elle est présente au Bénin, au Togo, ouais, au Gabon, en RDC, et aussi à l'international.
En Afrique et à l'international. Oui. Eugène Ebaudet, vous vouliez
ouais, oui, vous saluer la créativité béninoise et dire ouais, qu'à travers l'épisode de cette Amazone, ouais, que, dont j'ai vu la statue monumentale, qui est aussi un signe pour dire que le Bénin reconnaît une partie de l'histoire importante qui a été écrite par une reine, par les femmes. Ouais. Et moi, je suggère qu'il y ait peut-être d'autres Amazones, parce qu'il n'y avait pas qu'une seule, ouais, et qu'elles se poursuivent comme ça.
Le Ouida. Bénin remet ses femmes à l'honneur, et vous, vous êtes pour qu'on remette toutes les femmes à l'honneur.
Qu'on les mette toutes.
Je crois qu'on est assez d'accord.
On est assez d'accord.
Et puis, dernière chose, c'est que l'Académie du Royaume du Maroc a reçu récemment des intellectuels béninois, pour fêter l'OFA, une anthologie de l'Afrique de l'Ouest.
Ouais, Prudentienne, en un mot, à qui s'adresse cet ouvrage?
C'est un livre tout public, hein. Ça s'adresse aux enfants, aux adolescents, aux adultes, même à nos grands-mères,
voilà,
pour reconstruire l'histoire, pour permettre de partager les bien bons moments que nos grands-mères ont passés autant de nos grandes figures historiques. Ouais. Et je voudrais profiter pour
On n'a plus beaucoup de temps, la Prudentienne. Il faut malheureusement qu'on se dise au revoir. On va vous dire à bientôt et on rappelle ce titre. Tassi Angbé, Reine du Dahomey, un livre à retrouver en ce moment. Donc à la librairie Savoir d'Afrique à Cotonou. Et c'est le moment de nous dire au revoir, Eugène Ebaudet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Eh bien oui, voilà, il est bientôt 17h.
Il faudrait que je revienne. J'avais encore des tas de choses à dire.
Revenez,
sur Zamzam.
Zamzam vient de paraître chez Gallimard dans la collection Continent Noir. Demain, sur le Pont des Arts, une chanteuse franco-malgache, Mandy Le Rouge. Soyez au rendez-vous, 15h10, dans Universel. À demain.